Les cartes et les animaux. Le bestiaire cartésien est essentiellement composé de grands animaux à sang chaud comme les singes, mais aussi de chiens, de moutons, d'une pie, d'un perroquet, d'un loup, d'une brebis. Les cartes s'intéressent aussi aux parties des animaux, particulièrement à leur cerveau, au cerveau de bœuf et au cerveau de mouton. Et il lui arrive de mobiliser quelques noms d'oiseaux lorsqu'un de ses adversaires l'irrite un peu par une lettre irrévérencieuse. Il traite ainsi Beckmann de vermisseau. Nous avons affaire, dans le cartésianisme, à une pensée de l'animal qu'on pourrait qualifier de polarisée ou d'intéressée, puisque celle-ci ne sert en définitive qu'à circonscrire de manière plus précise ce que c'est qu'un homme, par distinction avec un animal, ou en fonction de ce que celui-ci partage avec l'animal. Une des questions qu'on pourra poser sera alors celle de savoir si les animaux ne constituent pas un point aveugle de la pensée cartésienne. La pensée cartésienne des animaux est intéressée par la mise au jour de ce qui fait la spécificité de l'homme. Tout d'abord, les animaux permettent de rendre visible ce qui chez l'homme reste invisible. Le meilleur exemple qu'on peut en donner est celui de la fameuse glande pinéale dans laquelle, chez l'homme et chez l'homme seul, l'âme vient s'unir au corps. Chez Descartes, cette glande est visible, observable dans les cerveaux des moutons ou des bœufs, et c'est en raisonnant par analogie et même par un argument a fortiori sur sa plus grande petitesse chez l'homme que Descartes peut naviguer de son observation effective dans ses cerveaux jusqu'à la réflexion sur sa nécessaire invisibilité chez l'homme. Chez Descartes, le travail sur les animaux permet également de mettre au jour ce qui leur est commun avec les hommes, mais que les hommes attribuent à tort en eux à l'intervention d'une âme. C'est par exemple le cas du travail sur le mouvement réflexe dans les passions de l'âme. Lorsque Descartes nous explique comment la lumière réfléchie du loup dans les yeux de la brebis déclenche chez cette dernière un mécanisme de fuite, il vise à mettre au jour la reproduction d'un mécanisme identique en l'homme sans qu'il soit besoin de recourir à l'intervention d'une âme. Les animaux permettent aussi à Descartes de penser le mouvement inverse, c'est-à-dire de thématiser toutes les formes d'anthropomorphisme qui consiste à attribuer aux bêtes des volontés, une sensibilité, des intentions qui, dans le cartésianisme, ne peuvent appartenir qu'à l'homme. On raconte parfois à cet égard que Malebranche, adepte du mécanisme cartésien, avait été surpris en train de donner un coup de pied à une chienne pleine et lorsqu'il se l'était vu reprocher, il avait répondu « Mais ce n'est qu'une machine qui grince ». Enfin, chez Descartes, les animaux servent à penser le point ultime de différenciation entre l'homme le plus hébété, le plus insensé qui soit, et l'animal le plus élaboré, le plus intelligent, avec des guillemets, qui soit. Comment est-ce que Descartes parvient à penser cette différence de nature en rapprochant ces deux extrêmes? Eh bien, par ce critère célèbre de la cinquième partie du discours de la méthode que désigne l'action à propos, l'action adaptée à la situation. Et elle est illustrée par l'exemple bien connu du langage et par cet animal fétiche qu'est le perroquet ou la pie. En quel sens peut-on alors dire que les animaux demeurent un impensé de la philosophie de Descartes? Dans sa correspondance, en particulier lorsque Descartes est sommé de s'expliquer sur ce qu'il peut savoir ou ne pas savoir, de ce que les bêtes pensent ou ne pensent pas, il répond en substance que précisément, il ne peut pas se mettre à leur place ou dans leur tête pour savoir ce qui s'y passe. La tranquille assurance des textes publiés fait alors place à un peut-être. Les bêtes n'ont peut-être aucune pensée. Via l'exemple du dressage, les animaux permettent à Descartes de penser l'extension du pouvoir de l'homme à un être naturel autre que lui-même. Mais en retour, il questionne cette zone sombre qu'est celle de la possibilité pour l'homme de changer d'habitude ou d'acquérir de nouvelles habitudes, bref, d'être éduqué ou de s'éduquer lui-même. Pour des raisons qui tiennent à la fois à la religion, il est impossible d'accorder une âme immortelle aux animaux, et à la philosophie de Descartes, qui distingue radicalement l'âme et le corps, et accorde au corps vivant y compris une autonomie de fonctionnement par rapport à l'âme, pour toutes ces raisons donc, Descartes ne pouvait pas penser l'animal de façon radicalement indépendante de l'homme. On peut du coup se demander si l'impensé animal ne rejaillit pas sur l'homme lui-même.